Il y a donc le capitalisme de surveillance qui nous traque de façon bien plus efficace que les caméras et il y a le capitalisme tout court contre lequel cheminots et étudiants battent le pavé sans relâche.
Oui, il y a eu le 1er mai, journée internationale du droit des travailleurs et son cortège de tête qui a marqué le coup, le signal d'une contestation qui se transforme, d'une colère qui se cristallise et qui déborde du cadre syndical. Les universités qui se mobilisent, et même si les blocages sont levés brutalement par les forces de l'ordre, comme à l'université du Mirail, la mobilisation des étudiants continue de plus belle en ce mois de mai, c'est le minimum, et converge avec celle des cheminots ou des postiers. Les actions s'enchaînent, notamment à Paris, occupation de la prestigieuse École normale supérieure, rue d'Ulm à Paris, le 2 mai, action conjointe des cheminots étudiants dans les gares parisiennes le 7, assemblée générale de l'EHESS mobilisée contre le plan étudiant le 9, c'est Paris, mai 2018.
Bon, d'abord remercier les étudiants et étudiantes qui nous ont invités, nous postiers du 92 à l'ENS. Pas qu'on soit fiers d'être là, je vous le dis tout de suite, mais on est fiers d'être avec vous. On est fiers d'être avec vous.
Alors, je fais juste un moment de transition parce que l'idée aussi c'était que ces dernières semaines, les universités occupées ont permis de faire le lien et de servir de base d'organisation à la convergence des luttes, On a vu à Tolbiac, etc., des cheminots venir, tout ça. Et donc je passe la parole, pardon, à Gaël pour les postiers.
Alors, École normale supérieure, rue d'Ulm, dans la cour carrée, tout la banderole, ça ne fait que commencer.
Bon, en réalité, l'université n'est pas autre chose que le reflet de la société et du monde dans lequel on vit. L'université, les entreprises dans lesquelles on travaille, les quartiers dans lesquels on vit, ne peuvent pas être autre chose que le monde dans lequel on vit. Et le monde dans lequel on vit, il est à l'image de ce carré. C'est un cadre qui nous corsette, qui nous empêche de nous émanciper, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de décider. Parce qu'il est basé sur une chose, il est basé sur l'exploitation de la majorité par une minorité parasitaire. Et tant qu'on n'aura pas explosé ce cadre, nous ne serons émancipés de rien.
Il y a des textos qui commencent à tourner comme quoi il y aurait les CRS rue d'Ulm. Donc pas de panique, on verra après ce qu'on fait. Mais pour l'instant, finissons le colloque. Et voilà, on en parlera juste après. Frédéric.
La mobilisation contre la réforme de l'accès à la fac se propage à l'École normale supérieure.
Donc on est mercredi 2 mai, colloque intempestif à l'ENS.
C'est donc, me semble-t-il, très inadéquatement.
Frédéric Lordon a la parole.
Qu'on dit d'étudiants aussi fidèles à l'idée de l'université qu'ils l'occupent. Ils sont chez eux en vérité. Ils en sont les habitants. Les habitants entièrement légitimes. Et même les plus réveillés. L'occupation, les occupants, ce sont les empaillés, les managers, les présidents. Eux ont mis la main sur quelque chose avec quoi, dans son principe, ils n'ont plus rien à voir. Mais c'est là le genre d'inversion bien à l'image d'une époque qui fait tout marcher sur la tête. Si nous remettions les choses sur leurs pieds, que verrions-nous? Eh bien, nous verrions qu'à défaut d'abolir l'institution université, les étudiants se battent contre sa forme contemporaine et pour qu'en soit réinventée une autre. Une autre à laquelle nous aurons fait gaffe dès le début et qui, parce que nous continuerions d'y faire gaffe, permettrait d'espérer que, quoi qu'institution, toute vie ne s'en absente pas aussitôt.
J'enchaîne du coup. Il y a une action en préparation, on invite ceux qui veulent y participer à se retrouver derrière, il suffit de traverser le bâtiment.
On n'invite pas, vous venez, hein. Attendez, on va pas parler chinois, on va rentrer dans la cafette, vous nous suivez, c'est par là-bas. Allez, la fac elle est à qui? Elle est à nous là, allez, on va pas...
Hein. Alors École normale supérieure, en rue d'Ulm, ça s'active là dans tous les sens, il y a des échelles qui se baladent, il y a des matelas qui sont arrivés, il y a une sono qui s'installe, prise de parole.
Ok, c'est au max, du coup faut gueuler quoi. On est réunis ici Je pense pour des raisons beaucoup plus générales que l'opposition à la loi Or. On est réunis ici contre le néolibéralisme, contre le nationalisme, pour une société juste, durable, soutenable. Et pour la convergence des luttes, je pense que c'est important de ne pas se laisser dicter l'agenda des luttes et que on pouvait avoir une revendication plus ambitieuse que juste s'opposer à la loi ORE. Ça pouvait être, par exemple, exiger que toutes les réformes importantes soient adoptées par référendum. Voilà, qui est pour ?
Paris
mai, et articulé, ouais.
Le mouvement étudiant rouge donc encore, avec des occupations qui se poursuivent dans quelques facultés, en particulier à Nanterre, et puis avec ce matin, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris, qui a été fermée après une occupation par des opposants aux nouvelles règles d'accès à l'université. Hier, il y a eu un colloque.
La direction a demandé aux occupants d'évacuer les lieux et des CRS sont sur place.
Édouard Philippe avait prévenu que sa main serait tendue, mais qu'elle resterait ferme. Ses mots et les commentaires des syndicats à la sortie des rendez-vous du jour à Matignon confirment.
Étudiants, cheminots, même Macron, même combat. Étudiants, cheminots, même Macron, même combat.
Lundi 7 mai, après les négociations du matin à Matignon. Alors il y a deux cordons de CRS qui ont bloqué un groupe de manifestants au milieu de la gare du Nord, au milieu du hall central. En face des voies 12, 13 et 14, il y a une petite centaine de manifestants avec des drapeaux sud solidaires.
Monsieur, j'informe les voyageurs là qu'à l'heure actuelle, au vu des événements qui se passent en gare,
on n'a pas pu écouter la fin de l'annonce, mais apparemment ça perturbe quand même pas mal.
Alors ce matin, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il y a eu négociation, il y a eu rencontre en tout cas.
Il y a eu rencontre, négociation non, puisque de toute façon, Édouard Philippe est resté sur son sur le statu quo. C'est-à-dire qu'il ne voudra pas retirer l'obstacle ferroviaire, puisque nous, sur le rail, on demande. Donc il veut bien rencontrer de nouveau les syndicats, si j'ai bien compris, à la fin du mois pour parler de la dette. Mais juste pour en parler, pour dire quoi, on ne sait pas non plus. Mais à l'heure actuelle, il reste cramponné en fait sur ses positions. Continuer dans cette réforme jusqu'au bout. Et donc tout ça derrière, casser le service public. Et malgré le fait que vous voyez deux, trois personnes qui sont un peu en colère, je vous assure que dans la majorité des cas, nous sommes soutenus. Nous avons des caisses de solidarité qui sont en train d'augmenter au fur et à mesure. Même si au sein, enfin même si on n'en verra pas, enfin ça ne couvrira pas nos journées de grève, symboliquement c'est extrêmement important. Et nous savons que nous sommes soutenus. Nous recevons des messages aussi de solidarité. Et hier, par exemple, j'ai quand même repris le travail et j'ai eu beaucoup de voyageurs, même s'ils étaient un peu fâchés d'avoir leur train supprimé, qui nous disaient derrière en partant, ne lâchez pas, on a besoin que vous continuez. Voilà. Parce que nous, si on tombe, si je peux prendre cette expression, tout le reste, parce qu'on va avoir encore 4 ans de Macron. Et il en a dans sa besace des réformes. Et des réformes qui sont de plus en plus antisociales et qui sont de plus en plus violentes socialement. Et ça, c'est des violences sourdes qui prennent les tripes et qui font mal, très très mal. Beaucoup plus mal qu'un McDo qui se fait exploser ou qu'une voiture, enfin deux voitures qui sont carbonisées. Beaucoup plus mal. Parce que là, on n'a pas d'assurance derrière pour réparer ce qu'on a dans les tripes et dans la tête. À force de nous faire les poches, toujours les mêmes. Les jeunes, avec les APL, les vieux, avec l'augmentation de la CSG. Je suis dans le monde du travail, ça fait des années qu'on me demande de faire des efforts. Et je vois toujours les mêmes qui n'en font jamais. Il y a quand même... Ça fait mal. Vraiment.
On n'entend pas chanter qui reflète. On n'entend pas chanter qui reflète.
Alors vous, vous êtes cheminote ?
Voilà, je suis cheminote, donc je travaille à la gare Saint-Lazare, je vends des billets de train, grande ligne. Normalement, je crois à partir du 1er juillet, on ne partira plus forcément à la gare Saint-Lazare, hein, mais Normandie, puisqu'en fait la gare Saint-Lazare a été divisée par 3 établissements. Avant, c'était des établissements par métier, et ensuite ils ont fait 4 établissements pardon, par ligne. Ce qui est beaucoup plus facile par ligne de proposer le paquet à d'autres entreprises privées.
Externaliser quoi.
Voilà, externaliser. Parce qu'à partir du moment où on va être appartenir à la Normandie, dans 2 ans, dès l'ouverture à la concurrence, forcément, il va y avoir des appels d'offres. Ça veut dire que si on n'appartient plus à la SNCF, on appartient donc à une autre entreprise qui effectivement, je crois, d'après la loi travail, ça c'est de El Khomri, a l'obligation de garder au moins 80% des salariés sur la base du volontariat. Donc après, si je veux pas, c'est au revoir et merci. Bah, Pépi n'a pas su répondre à la question d'ailleurs. Il a été interrogé il n'y a pas très longtemps. On lui a posé la question. Qu'est-ce qu'on ferait des agents qui refuseraient d'aller dans une entreprise? Je ne sais pas, on n'a pas vraiment décidé. En gros, on serait considéré comme démissionnaire. Donc déjà, alors admettons que finalement on accepte de rester dans cette entreprise. Effectivement, après ça devient des accords d'entreprise. Ce ne sera plus en fait le statut qui nous protège, des conventions collectives qui vont être négociées, etc. Et de fait, au bout de 15 mois, le statut va disparaître. Parce qu'ils ont 15 mois pour conserver ce statut, mais après négociation, etc., on peut le perdre. Donc quand on les explique qu'en fait, on va retirer le statut uniquement aux nouveaux embauchés, c'est pas vrai. Nous aussi, on est impactés. Dans 2 ans, 3 ans, je sais pas moi ce que je vais devenir. Du coup, moi, j'ai peur de mon avenir. J'ai 44 ans, j'ai pas peur de le dire. J'ai des enfants en bas âge, j'ai 20 ans de boîte. Moi, dans 2 ans, 3 ans, il faut imaginer, j'ai 47, 48 ans. Si j'ai plus de boulot, je suis has-been sur le marché du travail. Ou alors je vais accepter un boulot qui ne va pas être payé. Ou alors je vais avoir un temps partiel parce que j'ai des enfants en bas âge. Ou je ne sais pas. C'est hyper angoissant.
C'est pas du folklore quoi, d'être là à bloquer les gares.
Non,
quoi.
Complètement pas, ouais. Non, c'est ça, du tout, du tout. Donc on pense à notre avenir, parce que notre avenir est important, parce qu'on a des familles, parce que voilà. Et on pense aussi, en règle générale, au service public aussi. On le défend, le service public. Depuis que je suis rentrée à la SNCF, j'ai toujours entendu même les anciens, parce que les anciens qui se sont battus, qui ont vécu 86 ou 95, j'ai eu la chance de les connaître quand je suis rentrée il y a 19 ans, souvent ils nous mettaient en garde. Attention, les conquis sociaux, ça se conserve, ça se préserve. C'est une lutte continuelle pour garder, pour conserver tout ça. Et très souvent, effectivement, on entendait déjà cette petite musique sur la concurrence, mais on ne s'imaginait pas que ça pouvait arriver. On n'imaginait pas, franchement. Et après, là, pour moi, ça fait 3-4 ans d'une manière... exponentielle. Ça, c'est parti en sucette, quoi. On voit bien la façon dont ils nous gèrent, au niveau du management. J'ai quand même un collègue l'année dernière qui s'est tué, qui s'est jeté sous un train. L'idée, c'est de faire plier les gens, que les gens courbent les chines et qu'ils acceptent quoi qu'il arrive. Et il y a toujours cette petite musique à nous faire croire, vous allez voir, ça sera beaucoup mieux. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans cette boîte, ça fait 20 ans qu'on me dit, ça va aller mieux, mais ça n'a jamais été mieux. Donc au bout d'un moment, effectivement, on se syndique et à un moment donné, on y va. On fait grève. Moi, je suis à 17 jours de grève. Je m'en fiche. Ça fait mal au portefeuille. Mais en même temps, voilà, on est tous là. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est gagner.
Et là, il y a les étudiants, hein, les jeunes qui sont avec vous.
Les étudiants, tout à fait.
Qui sont en colère, effectivement.
Ils sont extrêmement en colère. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller les voir à Nanterre. C'est vrai que dès qu'on arrive chez eux, on est acclamé, un truc de malade. Et dès qu'ils viennent nous voir, nous aussi, on les acclame, on a besoin d'eux. Et c'est quand même une année qu'ils sont prêts à sacrifier. Hein, c'est quand même pas rien, même quand on est jeune. Puis il y a les parents derrière qui doivent pousser, qui doivent leur dire « c'est bien beau ce que tu fais, mais il va falloir que tu aies tes partiels ». Donc ils sont tiraillés et ils le font malgré tout. Et ils nous soutiennent, ils soutiennent les postiers, ils soutiennent le personnel hospitalier, ils soutiennent tous ceux qui sont là dans la lutte. Et la convergence des luttes, c'est vraiment le maître mot chez nous. Et on a vu toutes les mobilisations, à chaque fois il y a tous les corps de métier. Et vous avez vu le 5 mai, où ça a été une manifestation qui a été formidable. Et je suis sûre que le 26, ce sera encore mieux. Chaque jour, voire tous les 2 jours, on invente une nouvelle forme de mobilisation. Et franchement, c'est sympa, quoi. Et puis, de toute façon, tant qu'il y a de la grève, il y a de l'espoir.
Et là, en ce moment, derrière nous, il y a un CRS qui discute avec des jeunes étudiants, justement. Il a l'air désolé d'être là, quoi.
Je suis sûre qu'une tenue SNCF lui aurait mieux allé qu'un uniforme de CRS, mais bon.
On pourrait peut-être dire qu'on est là pour écraser les gens, dit-il aux jeunes qui sont là. Ouais.
Por tu interno, por la mi vida. Vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, 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 partigiano, porta mi via. E mi sento. La se yo muoio da partigiano. Oh bella ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. La sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Le genti passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
96 boulevard Raspail, École des hautes études en sciences sociales. Là, il y a une banderole. La commune agitée de Raspail. C'est ici qu'il y a le collectif de la Brèche qui occupe un petit bâtiment à droite quand on rentre dans la cour. Et c'est calme, il y a un petit jardin là. Il y a une vaisselle autogérée en ce moment. Alors, il y a un info-kiosque en rentrant. Une table info, lien utile, Facebook La Brèche, EHESS mobilisé contre le plan étudiant, EHESS en lutte. Pas de clope à l'intérieur, il fait beau, pas d'alcool fort, ni aucune drogue tolérée. On laisse les fleurs tranquilles, on les aime bien. Fermeture des portes entre minuit et 7h.
La Brèche, c'est pour baraque radicale des êtres qui chatouillent l'État. Et du coup, l'enjeu là d'ouvrir cet espace-là, d'ouvrir cet espace de jour comme de nuit, c'est d'avoir en fait au sein de ce 6e arrondissement aussi et au sein de, enfin, un espace où on peut faire en sorte que des gens se rencontrent, des gens qui sinon ne prennent pas le temps de se parler, ne prennent pas le temps de se poser et d'essayer de politiquement discuter, débattre, échanger et puis aussi d'organiser. Là, on a fait une fête avec les postiers en lutte du 92 qui sont venus organiser une fête samedi soir qui s'est très très bien passée, qui était très joyeuse. Il y avait 300 personnes dans le parc, ça discutait de partout, c'était vraiment, enfin, un moment d'émotion collective super et de politisation hyper hyper important et voilà, enfin, nous c'est l'enjeu, c'est vraiment de faire des séminaires alternatifs, de faire venir des enseignants, des syndicalistes, des militants sur d'autres questions, venir se rencontrer et échanger et apprendre, parce qu'on a tellement de choses à apprendre les uns sur les autres et sur les luttes en cours, qu'ils soient à Paris, en France, mais aussi internationalement. Et voilà, du coup.
Il n'y a pas que les gens qui fréquentent régulièrement la salle de la Brèche qui se mobilisent actuellement. La Brèche, par exemple, ça fait un an que ça existe, mais il y a clairement aussi des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui continuent à arriver et qui continuent en fait à participer activement à ce qui se passe ici, quoi. Donc voilà.
Effectivement, la Brèche n'est pas représentative nécessairement de tous les gens, en fait, de toutes les composantes des gens qui luttent à l'EHESS, enfin des étudiants et étudiantes notamment qui luttent à l'EHS, puisque c'est plus la partie autonome, quoi. Enfin, comme voilà, quand on ne se revendique pas de syndicat. Ni de parti, et on s'auto-organise entre nous. Mais du coup, maintenant, on a réussi à créer une espèce d'entente à peu près presque amicale avec les syndicats. Donc ça se passe bien, on arrive à composer et à avancer ensemble. Donc ça, c'est un point cool et qui est porteur d'espoir pour la suite, quoi. Nous, en fait, le début de l'occupation, la première fois qu'on a occupé, c'était au 105, donc le bâtiment qui est en face, et on a occupé de manière diurne, c'est-à-dire que le jour, quoi, et pendant 3 jours. Donc ça a été négocié à l'amiable avec le président, et c'était dû, en fait, à l'expulsion de la ZAD à ce moment-là. C'est ça qui nous avait motivés. Mais de toute façon, on était déjà sur le terrain, enfin en lutte, par rapport à la loi ORE, par rapport à la loi asile immigration, et plus généralement par rapport au traitement des exilés qui est absolument infâme. Donc voilà, c'était déjà un terreau, le terreau de lutte de toute façon, il existe depuis avant nous même, donc les raisons de se mobiliser, elles sont énormes. Là, bah, effectivement, le fait qu'il y a un aspect interlutte et que bon, ce qu'on appelle convergence des luttes ou articulation des luttes en tout cas, se mette un peu en place de manière significative, bah, nous, ça nous pousse juste à nous engager encore plus et à rentrer dans un rapport de force encore plus important. Non, quoi.
Mais alors là, je laisse mes camarades me corriger si besoin est, mais je pense qu'on part tous du principe d'un constat qui est partagé depuis des années pour les gens qui sont ici, à savoir que le monde qui est en train de se faire ou tel qu'il s'est fait nous est infect, et que le grand avantage, la plus-value de ce gouvernement Macron, c'est d'avoir rendu les choses claires et évidentes à tous. Ce qui fait que ce n'est pas nous qui nous articulons par rapport au mouvement syndical, mais bien plutôt tout un ensemble de facteurs et d'acteurs qui rejoignent des positions qu'on tient depuis des années. Et c'est là où il y a un retournement, il y a une radicalisation qui monte dans des pans entiers de la société, qui découvrent des problématiques qui jusque-là leur passaient un peu au-dessus de la tête parce qu'on s'était arrangé pour qu'elles leur passent au-dessus de la tête. Et force est de constater que grâce à la bourrinitude d'un gouvernement qui n'a plus rien à cacher, confiant dans ses CRS et sa majorité parlementaire, on peut enfin discuter avec des syndicalistes qui comprennent que oui, l'action violente parfois c'est nécessaire, que oui, parfois le conflit et le rapport de force et non pas le dialogue social sont... des étapes nécessaires et des outils pratiques. Et de ce point de vue-là, en fait, on est très heureux de voir les syndicats, les associations diverses et variées, ainsi que tout un pan, on va dire, de la société civile, rejoindre des positions que jusque-là, on était minoritaire à tenir.
Mais Paris, mais Paris. Paris, mais Paris. Mais Paris, mais Paris. Le casque des pavés ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau força enchaîné à sa plume. Et piochant l'évasion d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps. Si je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon gris. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Mais Paris, mais Paris. Mais Paris, mais Paris. Repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, ni manne, ni mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant.
Des espaces ouverts pour se rencontrer, se mobiliser, imaginer et rêver la suite. Hier soir, c'était projection du film L'An 01 à La Brèche. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Paris 8 aussi toujours occupé, plateforme de mobilisation et d'accueil de réfugiés. La fac de Nanterre toujours mobilisée aussi et occupée. C'est Paris-Mai 2018.